C'est Jean-Baptiste qui parle de Jésus à venir. Et pour être sûr que les gens ne se trompent pas, il précise vous-même, m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ. Mais j'ai été envoyé devant lui, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui croit au Fils à la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est une déclaration qui est presque violente aujourd'hui. Si on dit cela, on dit, mais attends, Dieu est un Dieu d'amour et il est venu pour sauver. Certes, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. Ce sont ces paroles qu'un imam du sud de la France a entendues il y a quelques mois. Et ces paroles ont marteler son esprit au point qu'il n'arrivait plus à dormir. Et au point qu'en lisant la Bible, Dieu s'est révélé à lui. Le prophète Jean-Baptiste a parlé de Christ. Il a donné sa véritable place à Christ. Il dit, je ne suis pas Christ. Je ne suis pas Christ et je dois diminuer afin qu'il croisse. Alors on sait que Jean-Baptiste a été décapité, n'est-ce pas? Mais réellement, il est en train d'annoncer prophétiquement ce qui doit se passer dans le cœur des hommes et des femmes pour que la vie de Christ puisse prendre racine en nous. C'est-à-dire que l'homme, ce qui est de l'homme et ce qui est de la terre, doit disparaître, afin que ce qui est du divin, afin que ce qui est de Christ, ce qui est de Dieu, puisse apparaître et prendre la place. Aujourd'hui, nous vivons dans des temps qui sont extrêmement difficiles. On aurait pu dire ça il y a déjà quelques années et dire, voilà, la vie n'est pas bien, ne va pas bien. Mais vous êtes comme moi, vous avez pu constater une accentuation de la violence, de la méchanceté, de la férocité, une accélération de ces choses, parce que Voilà, aujourd'hui les armes sont modernes, aujourd'hui les gens et les déplacements se font extrêmement rapidement. J'étais en Irak il y a 4 semaines, eh bien nous étions à peu près à 35 kilomètres des frontières de la ligne de front où était l'État islamique. Avec les 4x4, en une demi-heure, ils étaient là. Et ces choses-là, il y a bien des années, n'étaient pas possibles. Aujourd'hui, nous vivons une accélération de ces choses. Le problème, c'est que nous, chrétiens d'Occident, nous pensons que nous sommes complètement à l'abri de cela. Nous pensons que rien ne va se passer. Il y a quelques années, en Indonésie, les chrétiens pensaient que ce n'était pas possible qu'ils soient dérangés dans leur vie quotidienne. Et quelques mois après, il y a eu des attaques d'églises, il y a eu des morts. Un des plans de l'État islamique, c'est d'infiltrer 500 000 djihadistes au travers des filières de migrants, celles qui sont utilisées actuellement, qui arrivent en Italie, sur les côtes, aussi en Grèce, voilà, en Espagne. Et de faire passer 500 000 djihadistes qui mettront l'Europe à feu et à sang. Est-ce que vous croyez qu'ils peuvent le faire? Bien sûr qu'ils peuvent le faire. Est-ce que vous croyez qu'une armée est capable d'arrêter? Aujourd'hui, on considère qu'ils sont entre 80 et 100 000 combattants, tous prêts à mourir et à emmener avec eux autant d'infidèles que possible. Est-ce que vous pensez qu'il y a une armée au monde qui est capable aujourd'hui de lutter contre cela? Les militaires qui se sont battus contre eux vous disent « mais ils sont invisibles, ils apparaissent et ils disparaissent, ils se confondent à la population, ils sont aidés par les populations ». Il y a d'autres endroits comme la Corée du Nord où c'est une prison à ciel ouvert pour les chrétiens et on n'est même pas autorisé à regarder le ciel et à prier, parce que si on voit que vos lèvres bougent, alors on peut vous soupçonner de prier à Dieu. Le problème de l'Église en Occident, c'est l'incrédulité. C'est l'incapacité à croire que ces choses peuvent arriver. Et j'aimerais que nous allions en arrière dans l'histoire et que nous lisions l'histoire d'Habacuc. Habacuc était un prophète et en tant que prophète, eh bien, il devait annoncer les oracles de Dieu. Mais Habacuc avait un problème. Il avait un problème, c'est que il critiquait son peuple et il trouvait que Dieu n'était pas assez virulent contre le peuple qui était désobéissant. Je ne sais pas si vous avez lu l'histoire de Jonas. Jonas, c'était un prophète de Dieu aussi. Et lorsque Dieu lui a dit d'aller à Ninive, eh bien, il est allé à Tarsis. Et pourquoi? On l'apprend dans le chapitre 4. Je n'ai pas voulu aller à Ninive parce que je savais que tu étais un Dieu bon, que tu étais miséricordieux. Et moi, je ne voulais pas que tu fasses du bien à ce peuple. Je voulais que tu les détruises. C'était ça la réalité du cœur de Jonas. Et Habacuc est devant Dieu et il prie. Chapitre 1, oracle révélé à Habacuc le prophète. « Jusque à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et de la discorde, et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. » Alors Dieu lui répond. Dieu lui répond. Jetez les yeux parmi les nations et regardez. Et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre. Et vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont point à lui. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant et il assemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses. Il amoncelle de la terre et il les prend. Alors son ardeur redouble. Il poursuit sa marche et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Alors Habacuc comprend que là, il est en train de se passer quelque chose. Et il répond à Dieu. N'es-tu pas de toute éternité, éternel, mon Dieu, mon saint? Nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu? Quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui, traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a point de maître? Et il continue comme cela. Comment toi, Dieu, un Dieu juste, pourrais-tu utiliser un peuple qui est plus méchant que nous pour nous punir? Comment pourrais-tu faire cela? Où est la justice de Dieu? Et c'est ce même Habacuc qui disait « Le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques, la justice n'a point de force. » Habacuc a un problème de compréhension. Il n'a pas réalisé réellement et profondément qui est le Dieu qu'il sert. Alors, Habacuc répond. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Il se fait son scénario et il se dit, ça ne va pas finir comme ça. Et Dieu m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Vraisemblablement, il parle des Chaldéens. Mais le juste vivra par sa foi. Voilà le verset clé de ce livre d'Habacuc. C'est un verset qu'on retrouve dans Romains 1, 17, dans Hébreux 10, verset 37, 38, et également dans Galates 3, 11. Pour vous dire quelle importance cela revêt. Le juste vivra par sa foi, le juste vivra par la foi. Ce verset annonce le salut. Ce verset annonce la façon dont nous serons sauvés par la justice de Dieu. Alors, Habacuc va discuter encore un certain temps avec Dieu. Et j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, moi je m'intéresse beaucoup au processus, à la façon dont les choses avancent, à la façon dont les choses se mettent en place pour arriver à un résultat. Et après les discussions avec Dieu, eh bien on s'aperçoit que ce prophète, qui finalement n'avait pas de message pour son peuple, si ce n'est de se plaindre auprès de Dieu, eh bien commence à comprendre qui est Dieu, comment Dieu agit. Et nous verrons tout à l'heure que Dieu a fait d'un homme qui n'avait pas de message, un homme avec un véritable message. Et ce qui m'intéresse pour l'Église, qu'il s'agisse de nous ici, mais aussi de façon générale, c'est que nous, hommes et femmes, qui nous réclamons enfants de Dieu, eh bien nous ayons aussi un message à apporter autour de nous. Parce que si nous n'avons pas de message, eh bien, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons passer notre temps à nous plaindre de la façon dont les chrétiens se comportent. Nous allons passer du temps à nous plaindre de la façon dont le monde agit contre les chrétiens. Non. Ce que Dieu veut faire en nous, c'est nous équiper. Nous préparer pour le pire. Pour que dans ce pire, nous puissions être de ceux qui apportent un message. Lorsque j'étais en Irak, j'ai rencontré un homme qui était un vétérinaire. Il habitait la ville de Karakoche. Karakoche est une des villes chrétiennes à côté de, pas loin de Mossoul. Et vous savez qu'au mois d'août l'année dernière, deux grandes villes, donc Karakoche et Mossoul, ont été attaquées par l'État islamique et les chrétiens ont dû fuir. Ce sont des villes essentiellement chrétiennes. Pourtant, tous, le jour d'avant, vous aurez dit « Jamais nous ne serons chassés de nos villes. » Ils avaient dans la ville un bataillon de soldats kurdes qui avaient promis que s'ils étaient attaqués, eh bien ils répondraient et ils défendraient la ville. Et si vous connaissez la capacité des soldats kurdes à se battre, eh bien, vous sauriez que finalement, on pouvait leur faire confiance et on pouvait se reposer sur cette promesse. L'État islamique est arrivé et tout le bataillon kurde est parti. Ils n'ont même pas livré bataille. En fait, ils n'ont pas tenu leur promesse. Les raisons, on ne les connaît pas, mais ils sont partis, ils ont laissé toute la population livrée à elle-même, et ils ont simplement dit aux responsables religieux, allez annoncer à vos personnes là, que nous partons et qu'ils fuient. Et donc, en l'espace de 3 heures, la ville de Karakoch s'est vidée de tous les chrétiens. Parmi ces gens, il y avait ce vétérinaire. Je l'ai rencontré à Erbil. Il était donc Erbil est la capitale du Kurdistan irakien, où il faisait donc partie des réfugiés. Il était là dans son appartement de 2 pièces, une cuisine et une chambre à coucher pour 7 personnes, donc avec ses 5 enfants, son épouse et sa belle-mère. Et il nous a raconté l'histoire. Il nous a raconté son histoire. Il nous a dit, moi, j'étais un bon chrétien. J'allais à l'église tous les dimanches. Et dans la semaine, je faisais des affaires. Ce que je voulais, c'était gagner un maximum d'argent. Donc, j'étais en train de construire ma 3e maison. Je faisais des affaires avec des achats d'animaux et de reventes, des choses comme ça. Et lorsque l'État islamique est arrivé, j'ai juste eu le temps de prendre tous les membres de ma famille, de les mettre dans la voiture, de prendre avec moi 1 700 $ et de partir sur la route. Et là, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé et il m'a dit, mais est-ce que tu te rends compte? À quoi tu as passé ta vie? Est-ce que tu te rends compte que tu as bâti, tu as amassé et qu'aujourd'hui tu as tout perdu et que tu ne le retrouveras plus? Il nous a dit, lorsque je bâtissais mes maisons, mes voisins musulmans, mes amis, se moquaient de moi gentiment. Ils me disaient, ah, tu verras, dans quelques années, tout ça, ce sera à nous. Mais je ne le croyais pas. Je ne le croyais pas. Qui pouvait me déraciner de ma terre? Mes grands-parents étaient là, mes parents étaient là, nous-mêmes. Dieu m'a parlé sur l'inconséquence de ma vie. Et lorsque cet homme nous parlait, je vous garantis que c'était comme si le ciel descendait sur la terre. Il y avait une pureté et une sainteté qui s'est installée dans la pièce. Il nous a raconté comment, arrivé là, il a commencé à prendre en charge tous les réfugiés, c'est-à-dire plus de 400 familles, à s'occuper d'eux et à utiliser ses capacités de gestionnaire, d'homme d'affaires, pour essayer d'améliorer la qualité de vie et les possibilités de tous ces réfugiés qui étaient là. Et il me dit parfois, je suis désespéré. Mais le Seigneur m'envoie de temps en temps, une vieille femme qui me dit, « Mon fils, si tu n'étais pas là, qu'est-ce que nous ferions ?» Et à un moment, je me suis dit, « il faut que nous prions pour cet homme. » Nous avons décidé, nous sommes mis à genoux et nous avons prié avec lui. Et quand il a eu fini, il l'a dit, le Seigneur n'envoie pas que des vieilles femmes. Mais vraiment, ce qui est remarquable dans cette histoire, c'est que d'un homme qui avait consacré sa vie à lui-même, à amasser des richesses, l'État islamique l'a transformé un homme de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'a dit. Il dit, c'est l'État islamique qui a fait ça. Mais moi, je dis, c'est Dieu qui l'a fait. Et c'est là notre problème. N'est-ce pas? C'est là où nous n'arrivons pas nécessairement à comprendre la cohérence des choses. Un homme comme cela me dit à moi, qui vient d'un faubourg de Strasbourg, tranquillement en avion, vient me dire, l'État islamique a fait ça dans ma vie. Est-ce que si j'avais eu des doutes sur le fait que Dieu puisse utiliser une arme aussi puissante que l'État islamique, aussi méchante que l'État islamique pour transformer un cœur, est-ce que j'aurais eu seulement le droit de lui dire, je ne crois pas que c'est l'État islamique? Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? L'État islamique ne fait rien que Dieu ne l'autorise à faire. Rien. On peut aller juste dans Romains, au chapitre 1. Je m'arrête à quelle heure? Là maintenant? À 4 heures. S'il y a quelque chose que j'ai copié sur Norman Mitten, c'est ça. C'est que je suis juste à la fin de l'introduction. Donc c'est l'endroit où dans Romains, l'apôtre Paul cite ce verset d'Habacuc. À partir du verset 15, « Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. » C'est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui, donc en l'évangile, est révélée justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. J'ai omis les articles parce qu'ils ne sont pas existants dans l'original. L'évangile est puissance de Dieu. L'évangile de Christ est puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec, parce qu'en cet évangile est révélée justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Habacuc avait besoin de comprendre cela. Habacuc, n'est-ce pas, avait besoin d'être guéri de son syndrome d'incompréhension. Il avait besoin que Dieu fasse quelque chose en lui, lui montre quelque chose, et qu'il puisse concilier que ce qui était à venir, c'est-à-dire la destruction et la déportation, faisait partie intégrante du plan de Dieu pour le bien de son peuple. et que c'était ça la justice de Dieu. Mon juste vivra par la foi, parce que s'il ne vit pas la foi, il va périr. Et il va périr dans son incompréhension, il va périr parce qu'il n'arrive pas à concilier l'inconciliable. Et donc, je vais finir sur, je vais m'excuser, mais sur Habacuc. Et ce que Dieu fait, on le lit à la fin. C'est-à-dire que d'un homme qui n'avait pas un véritable message pour son peuple, qui finalement ne savait pas quoi lui dire, Dieu a travaillé son cœur. Et bon, j'aurais voulu passer plus de temps dessus, mais chapitre 3, Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Verset 16, j'ai entendu et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Est-ce que je peux répéter ça? En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple, car le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Je ne sais pas ce que ça vous fait. Mais est-ce que nous sommes d'accord avec Dieu pour qu'il agisse en nous? Pour qu'il nous rende capables de faire cette prière par anticipation? Parce que je vous l'ai dit, dans de nombreux endroits, on a pensé que jamais on ne serait atteint, que jamais la persécution ne viendrait. Et elle est venue du jour au lendemain. Est-ce que nous sommes d'accord pour nous préparer et pour recevoir ce message qu'a reçu Habacuc? Que le juste vivra par la foi. Que cet évangile qui nous a été annoncé, cet évangile de Christ qui est une puissance, est la seule puissance qui peut nous faire comprendre l'incompréhensible. Quel est l'homme qui peut comprendre que Dieu utilise l'État islamique? Il faut avoir la connaissance du cœur de Dieu et dans la façon dont Dieu travaille et agit. Pour non seulement accepter cela, mais être d'accord complètement et entièrement avec cela. N'est-ce pas, nous avons connu tous des difficultés dans la vie, des difficultés peut-être très graves. Aujourd'hui, je pourrais vous citer des centaines de témoignages dramatiques. Et je pourrais vous citer des témoignages où les gens ont réagi d'une manière et où les gens ont réagi d'une autre manière. Ceux qui connaissent Dieu dans son intimité ne sont pas découragés. Vous avez entendu parler de ces jeunes hommes qui ont été égorgés et qui ont témoigné de Christ devant les caméras. Une mère qui a vu ses deux fils égorgés en même temps a témoigné en remerciant l'État islamique de ce formidable témoignage de la puissance de Christ manifesté devant la terre entière, parce que ses fils n'ont pas failli, parce qu'ils ont témoigné Christ jusqu'à la fin. Est-ce que nous sommes d'accord d'être ceux qui témoigneront Christ jusqu'à la fin? Un pasteur péruvien a dit, si vous voulez vivre la vie chrétienne au Pérou, eh bien vous devez commencer par mourir. Et alors, chaque jour qu'il vous restera sera un gain. Cet homme était un persécuteur de chrétiens. Et lorsqu'il s'est converti, eh bien il a été lui-même rattrapé par ses anciens camarades et assassinés. Les témoignages d'hommes et de femmes qui ont compris ces choses sont nombreux. Est-ce que nous en faisons partie? Est-ce que nous voulons commencer à y penser, à prier dans ce sens et à préparer nos cœurs? Pas pour nous préserver, mais pour que Dieu nous donne un véritable message. Pour que jusqu'au bout nous puissions être de ceux qui aident les persécuteurs et ceux des chrétiens qui sont faibles et incapables de réagir dans ces situations. Bon, j'aurais pu vous parler de beaucoup d'autres choses, notamment que la foi se révèle dans la façon dont nous obéissons à Christ. N'est-ce pas, si nous passons en revue tous ces hommes de foi dans Hébreux 11, eh bien nous avons là l'exemple même de ce qu'est la foi et de ce qu'est la justice de Dieu. Nous voyons que Dieu fait dans l'invisible les choses qui sont visibles. Nous voyons que Noé a construit une arche alors qu'il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Est-ce que nous construisons une arche? Est-ce que vous êtes en train de construire une arche dans votre jardin? C'est stupide, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce qu'on a dit à Noé à l'époque. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Qu'est-ce que Dieu vous a dit aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu vous a demandé de préparer aujourd'hui? Peut-être que vous allez prendre une décision aujourd'hui en fonction de ce que vous avez entendu. Et autour de vous, on va vous dire, mais c'est stupide. Abraham est parti sans savoir où il allait. Abraham était prêt à donner son fils Isaac, son seul fils. C'était aberrant comme demande. Il y avait eu tellement de problèmes pour l'avoir. Et maintenant qu'il était là, il fallait qu'il retourne d'où il venait. Ça n'a pas de sens! Pour Abraham, c'était la justice de Dieu qui s'accomplissait dans sa vie. L'obéissance était la preuve qu'il avait compris Dieu. Est-ce que nous pouvons faire ces choses? Est-ce que lorsque les situations sont paradoxales et qu'elles n'ont aucun sens logique, est-ce que nous pouvons continuer à avancer avec foi? Peut-être que le Dieu nous révélera certaines choses. Peut-être qu'il nous les révélera seulement lorsque nous serons auprès de lui. Eh bien, ce sera bien assez tôt. Seigneur, je prie pour que nous devenions des hommes et des femmes avec un message. Seigneur, nous pouvons passer du temps à nous questionner, à te questionner sur les choses.